la puissance de la foi. Avant de parler de la foi qui est puissante, je pense qu'il est indispensable pour nous de définir ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qui sait ce que c'est que la foi? Qui lève sa main? La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11, verset 1. Mais nous avons passé notre temps à l'Église à définir la foi comme telle, et ça ne nous a pas toujours été assez bénéfique. Je pense qu'il est bien de rendre la définition plus accessible. En cela, je voudrais d'abord vous dire ce que le cours va apporter à votre vie individuelle. Ce cours va vous aider à avoir accès à la puissance de Dieu dans votre vie individuelle. La puissance de Dieu. Et vous savez, la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Quels sont ceux qui croient que Dieu est capable de tout faire? Que Dieu peut tout faire, que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est fabuleux. Mais vous savez, la Bible nous dit aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Vous savez qu'il est plus facile de croire que Dieu peut tout faire. Et il est plus difficile de croire que nous pouvons tout faire avec Dieu. Est-ce que ça va? Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? Dieu est capable de tout faire. Mais la Bible nous dit dans Marc 9, verset 23, ok, que tout est possible aussi à celui qui... Tout est possible à celui qui... Donc ça veut dire que si nous croyons, ok, nous pouvons manifester sur la terre la même puissance que Dieu peut manifester sur la terre à partir du ciel. Est-ce que ça va? En quelque sorte, pour avoir accès aux promesses que Dieu nous a faites, nous avons besoin d'avoir la foi en Dieu. Souvent nous croyons que Dieu va nous bénir simplement parce que nous avons fait 5 ans à l'église. Alors je viens vous annoncer que votre ancienneté à l'église ne va jamais, n'est-ce pas, être la condition, n'est-ce pas, sine qua non pour que Dieu vous bénisse. Vous pouvez être un pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, ancien d'église depuis 15 ans, mais ne pas avoir accès aux promesses de Dieu. Qui sait de quoi je parle? Ok? C'est possible. Et vous savez, Dieu ne va pas vous bénir parce que vous êtes à l'église catholique, ou parce que vous êtes à l'église évangélique, ou parce que vous êtes méthodiste. Non. Dieu ne bénit pas la dénomination dans laquelle vous êtes. Non. Dieu ne va pas vous bénir simplement parce que vous connaissez le révérend un tel. Non. Ou le prophète un tel. Non, Dieu ne vous bénit pas pour ça. Mais Dieu va vous bénir parce qu'il a vu quelque chose en vous que les gens n'ont pas habituellement, qu'on appelle la foi en Dieu. Est-ce que ça va? Donc, Dieu ne répond pas à vos titres ou à vos fonctions. Non, mais Dieu répond à la foi qu'il trouve dans vos cœurs. Donc, pour avoir accès aux promesses de Dieu dans notre vie, il est indispensable d'avoir la foi. La foi en Dieu. Il est indispensable d'avoir la foi en Dieu. Maintenant, quand nous regardons la condition de ceux qui s'appellent chrétiens autour de nous, quand nous regardons la condition de ceux qui adorent Dieu, entre guillemets, autour de nous, il y a quand même quelque chose qui manque. Je veux dire avec audace que nous n'avons pas habituellement l'opportunité de voir la gloire de Dieu manifeste dans la vie de ceux qui adorent Dieu. Souvent même, on va s'interroger en se posant la question de savoir, est-ce que le Dieu des païens est plus fidèle que le Dieu des chrétiens? Parce que, en fait, c'est à l'église, au milieu de nos frères, que se trouvent les situations les plus difficiles. Vous êtes avec moi? Quand les gens arrivent à l'église, généralement les affaires ne marchent plus. Quand les gens arrivent à l'église, ils ont des difficultés à trouver, même un mari, à trouver un emploi. Et plus grave, les gens paraissent à l'église. Il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. J'ai appris une chose avec Dieu. Quand quelque chose ne va pas dans ma vie, je m'arrête. La première des choses que j'ai fait, je sais que Dieu est fidèle. Je sais qu'il est extrêmement fidèle. Que si les choses ne vont pas, ce n'est pas Dieu qui a tort, et c'est obligatoirement moi qui ai tort. Alors je m'arrête et j'examine mes pas pour voir à mon niveau ce qui ne va pas, ce qui m'empêche d'avoir accès aux promesses de Dieu. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi. La Bible dit Dieu nous a déjà comblés de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu nous a déjà comblés de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Si mon frère a besoin d'une voiture, est-ce que Dieu lui a déjà accordé la voiture? Non, je répondais attentivement. Répondez. Est-ce que Dieu lui a déjà accordé la voiture? Si mon frère a besoin d'une maison, est-ce que Dieu lui a déjà donné une maison? Si ma soeur a besoin d'un mari, est-ce que Dieu lui a déjà donné un mari? La Bible dit, Dieu vous a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Si j'ai besoin du don de foi, est-ce que Dieu me l'a déjà accordé? Si j'ai besoin du don de miracle dans ma vie, est-ce que Dieu me l'a déjà accordé? Si j'ai besoin, tout ce dont nous avons besoin, Dieu dit dans Éphésiens 1, verset 3, il nous a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que ça va? Maintenant, je pose une question. dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Maintenant, parmi vous, nous sommes ensemble, ici. Qui parmi vous vit au ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous actuellement qui est au ciel? Mais qui sait que nous allons un jour être tous au ciel avec le Seigneur? Alléluia! Le ciel est beau, il est merveilleux. Ok, la Bible dit, les rues du ciel sont pavées d'or. Vous savez, le ciel est incroyablement beau. Mais mes frères, vous savez, c'est fabuleux de parler de ce beau ciel. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place, ok? Il s'en va nous préparer une place au ciel. Ma maison au ciel est en réfection, Dieu est en train de l'aménager à nouveau. Parce qu'il me prépare quelque chose de glorieux. Mais je ne veux pas simplement me contenter d'avoir une récompense céleste. Je me dis, si j'adore Dieu sur la terre, avant d'arriver au ciel, Dieu devra me démontrer à mon égard sur la terre sa fidélité. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne serait vraiment pas agréable pour moi d'atteindre simplement les récompenses célestes. Je veux avoir accès aux promesses de Dieu sur la terre des vivants. Je veux avoir accès aux promesses de Dieu. Maintenant, pour avoir accès aux promesses de Dieu, il est indispensable, c'est-à-dire c'est inévitable d'avoir la foi dans son cœur, d'avoir la foi en Dieu. Donc, la foi en Dieu est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Donc, la foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Et donc, pour avoir la foi, il ne faut pas être ancien d'église. Pour avoir la foi, il ne faut pas être automatiquement pasteur. Pour avoir la foi, il ne faut pas être automatiquement évangélique. Pour avoir la foi, il faut être un homme qui croit en Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, parce que nous avons dévié souvent les problèmes. On a passé le temps à accuser les autres. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est d'avoir la foi en Dieu. Donc, l'accès à nos bénédictions est conditionné par la foi que nous avons dans nos cœurs. Jésus lui-même disait qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu insiste tant sur la foi? Pourquoi est-ce qu'il veut absolument que l'Église ait la foi? Pourquoi est-ce que Dieu va jusqu'à dire dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de me plaire. Que celui qui s'approche de moi sache que j'existe et que je récompense ceux qui le suivent. Et il y a une récompense qui s'attache au fait de suivre le Seigneur. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi. Je vais vous donner deux définitions, deux autres définitions de la foi. J'ai dit la première, la foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour moi. Si Dieu m'a fait une promesse, pour avoir accès à cette promesse, j'ai besoin d'une main qui va dans la main de Dieu chercher la promesse que Dieu m'a faite. Viens mon frère. C'est-à-dire, voici Dieu qui a entre ses mains, n'est-ce pas, les promesses de l'Église. Pour avoir accès, n'est-ce pas, aux promesses de l'Église, pour avoir accès à ma promesse, il faut que je vienne dans les mains de Dieu prendre les promesses que Dieu a pour moi. Il dit, j'étais déjà comblé de toutes sortes de bénédictions, elles sont entre mes mains. Mais maintenant, si tu restes dans ta chambre, et tu ne fais rien par rapport à ça, bien que Dieu t'ait comblé de toutes sortes de bénédictions, tu n'auras jamais accès à ta promesse. Parce que rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, tu fais ce que tu n'as jamais fait. Donc, Dieu attend que nous venions prendre, n'est-ce pas, les promesses qu'il a pour nous entre ses mains. Donc, quand nous venons à Dieu et nous prenons la promesse, la main qui prend entre les mains de Dieu la promesse s'appelle la foi. Est-ce que ça va? Donc, maintenant, numéro 2, deuxième définition. La foi est une conviction qui est fondée sur la parole de Dieu. C'est une conviction qui est fondée sur la parole de Dieu. Si je dis que j'ai foi en Dieu, ma foi est une conviction que je fonde sur la parole de Dieu et non sur la parole d'un pasteur. Il faut faire la nuance. Ma foi devrait être fondée sur la parole de Dieu. Si je te dis, ma sœur, tu travailles dans une société, tu es trésorière, Dieu me met à cœur de te dire de voler tout l'argent de ta société et d'amener à l'église. Si tu fondes ta foi sur la parole que j'ai dite, alors on n'appelle pas ça la foi, véritablement, non. Ça c'est de la folie en fait, c'est la prison, c'est vraiment de la folie, c'est pas la foi. Donc la foi est fondée sur la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Maintenant numéro 2. La foi est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. La foi est une confiance totale que moi j'ai en Dieu qui est démontrée. C'est-à-dire, je dis que je crois en Dieu, je fais bien. Mais il faudrait que ma confiance en Dieu soit démontrée. Qu'elle soit
manifeste dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je ne crois pas à l'évangile où on prêche et où on n'a jamais amené cet évangile à démonstration. Si je dis que Dieu est fidèle, les gens devraient voir au travers de ma vie la fidélité de Dieu. Si je dis que Dieu est un Dieu qui guérit, les gens devraient voir au travers de ma vie la manifestation de la guérison divine. Sinon, la parole que je confesse de ma bouche n'est pas une vérité qui est établie. Okay? Ben parce qu'on peut dire des choses sans qu'elles ne soient vraies. Donc, la foi est une confiance qui est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Est-ce que ça va? Maintenant, quand je parle de confiance en Dieu, une confiance totale en Dieu qui est démontrée, il faudra comprendre que chaque fois que vous opérez par la foi, le diable vous donnera toujours l'opportunité, n'est-ce pas, de sortir de la foi pour opérer dans le doute. Vous aurez toujours l'opportunité de quitter le boulevard de la foi pour vous retrouver, n'est-ce pas, sur l'avenue du doute. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu veut absolument que nous puissions opérer par la foi? Genèse 2, versets 16 à 17. Suivez attentivement la lecture, même si vous n'êtes pas là, suivez attentivement. Quand Dieu a créé l'homme, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du fruit du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit à l'homme, tu mourras. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Maintenant, suivez attentivement Genèse 3, versets 1 à 6. On a lu tout à l'heure Genèse 2, versets 16 à 17. Maintenant, je vais lire Genèse 3. Versets 1 à 6. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit, il faut souligner vie dans votre Bible, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc ici, Dieu crée l'homme. Il met dans le jardin d'Éden. Dieu fait l'homme à son image. Il fait l'homme à sa ressemblance. Donc, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme était comme qui? L'homme était comme qui? Il était comme Dieu, n'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Tu pourras manger, n'est-ce pas, de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras. Car le jour où tu en mangeras, tu... Il a dit quoi? Tu... Maintenant, qu'est-ce que le serpent est venu faire? Il dit à la femme, suivez attentivement. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il introduit le doute dans la pensée de la femme. Maintenant, écoutez-moi bien. Et qu'est-ce que la femme va faire? Plus tard, étant en dialogue avec une pensée opposée à celle de Dieu, la femme va succomber à la pensée de Satan et elle va commencer à voir que le fruit était bon, qu'il était agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Je ne sais pas qui le lui a dit. Parce que quand tu vois un fruit, tu ne peux pas savoir s'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle a été influencée par la pensée de Satan qui lui a dit, vous serez comme des dieux quand vous en mangerez. Elle prit du fruit et elle mangea. Maintenant je vous pose une question. Qui a mangé le fruit à la place de la femme? Qui a mangé le fruit? C'est la femme. Qui a pris le fruit? Qui a mangé le fruit? C'est la femme, non, c'est la femme qui a pris, c'est la femme qui a mangé. Suivez-moi bien, est-ce que le premier homme était possédé? Non, est-ce que le premier homme avait un démon? Mais est-ce que le premier homme a réussi? Il a échoué. Mais dites-moi, est-ce qu'il était possédé? Non, mais qu'est-ce qui a amené l'homme à échouer? Le doute. Et quoi d'autre? La désobéissance à la parole de Dieu. Donc la foi, la confiance en Dieu a été ôtée. Et la femme a mis la confiance en Satan. Laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque fois que vous doutez, vous croyez en quelque chose d'autre. On croit toujours en quelque chose. En fait, on ne peut pas vivre si ce n'est par la foi. Maintenant, on peut choisir de croire en Dieu comme de croire en Satan. Tu es malade, on a diagnostiqué à l'hôpital que ta maladie est incurable. C'est vrai, les documents le révèlent, tu as une maladie incurable. La Bible te dit par les maîtrises de Christ, tu as été guéri. Tu as combien d'informations? Maintenant, Dites-moi, qu'est-ce qui va influencer votre vie? C'est l'information en laquelle vous croyez, c'est tout. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si vous voulez parler de la foi, il faudra établir la parole de Dieu comme étant la vérité suprême. C'est-à-dire, au-delà de la parole, il n'y a plus rien d'autre. Sinon, vous n'êtes pas prêt à opérer par la foi. Il faudra accepter la vérité de la parole de Dieu comme étant la vérité absolue. Vous êtes ce que la Bible dit que vous êtes et non ce que les circonstances vous décrivent que vous êtes. Est-ce que vous me comprenez? Et ça devrait être quelque chose de profond en vous. Même si un jour, dans votre maison, vous n'avez rien à manger, vous n'avez pas d'emploi et que les gens vous disent que votre famille est maudite, que vous êtes possédé de démons, au fond de vous, si vous avez confiance en Dieu, vous allez avoir accès à la délivrance et à la provision divine. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi, tout le temps, quand les gens ont des problèmes dans le corps de Christ, on dit qu'il faut faire une délivrance. Je ne suis pas contre la délivrance, mais je suis pour la connaissance. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas contre la délivrance, mais je suis pour la connaissance. Je vais vous dire quelque chose. La meilleure délivrance provient de la connaissance. Vous voyez, avec les événements qui se sont produits récemment, on a eu 4000 prisonniers qui sont sortis. Vous savez, ils ont été, d'une façon ou d'une autre, affranchis de leur peine. Mais, il y en a parmi eux qui ont pris la résolution de mener une vie rangée et de ne plus jamais être dans des situations obscures. Mais il y a d'autres qui, par contre, ont trouvé en cela une opportunité d'aller braquer partout. Vous savez, une liberté, quand tu l'obtiens et que tu ne découvres pas la limite de ta liberté, ça devient un esclavage. Donc, dans chaque liberté que nous avons, nous devons avoir la connaissance de la limite de notre liberté. Sinon, on devient tout de suite esclave de la liberté qui nous a été donnée. C'est important de comprendre ce que c'est que la foi. La Bible dit « mon peuple ». La Bible n'a pas dit les païens. La Bible n'a pas dit ceux du dehors. La Bible dit « mon peuple périt faute de connaissance ». La Bible n'a pas dit « mon peuple périt parce qu'il est possédé ». La Bible dit « mon peuple périt faute de connaissance ». Mais je dis « mais pourquoi est-ce que, quand quelqu'un n'a pas eu son examen, au lieu d'enseigner aux chrétiens à étudier ses leçons, on va lui enseigner à faire la délivrance pour avoir un examen ? Honnêtement, dites-moi, soyons sérieux, pour passer le bac, est-ce qu'il faut aller faire une délivrance pour qu'on chasse des démons en toi ? Il faut simplement étudier tes leçons. C'est aussi simple que tout. Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez des chrétiens aujourd'hui qui sont tellement spirituels qu'ils oublient que la terre existe. J'ai l'habitude de dire s'il y a des gens qui sont trop pressés d'aller au ciel, qu'ils viennent me voir. Moi, j'ai un travail à faire sur terre. Alors, tout ce qu'ils ont sur la terre, qu'ils donnent pour le ministère, on prie pour eux, ils meurent. Ils vont aller au ciel. Vous comprenez? Il n'y a que des personnes paresseuses qui sont trop pressées d'aller au ciel. Le ciel, c'est ma demeure. Je suis envoyé en mission. Donc, mon souci, ce n'est pas tellement de retourner. Non, c'est d'abord accomplir ce pourquoi j'ai été appelé sur terre. Si je suis un ambassadeur sur terre, ma préoccupation, c'est de faire le travail pour lequel j'ai été appelé. Il n'y a que des chrétiens paresseux et irresponsables qui passent tout leur temps à chanter du ciel comme si la terre n'existe pas. Et alors on justifie nos échecs et notre ignorance par tout genre de formules, je ne sais pas, spirit, en fait de sorcellerie carrément. Et vous allez vous rendre compte, je parle aujourd'hui à des gens en disant, vous vous rendez compte que les gens, on maintient une femme mariée à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Finalement, le pasteur devient le mari de cette femme, enfin, entre guillemets. Parce que le mari légitime n'a pas le temps de voir sa femme. Et quand le mari se plaint, vous dites non, il n'est pas possédé, il est normal. C'est nous qui avons un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous prenez un homme d'affaires que vous mettez en veillée de prière de lundi à dimanche. Et à la fin du mois, vous lui demandez d'envoyer une dîme. Il va prendre la dîme où? Puisqu'il doit être au travail pour amener le salaire, la dîme de son salaire à l'église. Et nous en faisons des gens qui sont appelés, sont consacrés, sont non appelés. Et les gens se cachent derrière ça. J'ai même vu des gens qui abandonnent l'école parce qu'ils ont peur des mathématiques. Pour dire, Dieu m'a appelé au ministère. Et ils disent, non, ce n'est pas la foi, ça, ce n'est pas la foi, c'est de la folie. Parce que Dieu n'a jamais béni l'ignorance. Et je vais vous dire une chose, l'une des choses pour lesquelles l'église évangélique n'est pas respectée, c'est parce que honnêtement, c'est un grenier de personnes médiocres. Et ça, je vous dis, c'est clair, personne n'aime la médiocrité. Dieu ne nous a pas créés médiocres. Et vous voyez, vous n'allez pas demander aux gens normaux de s'accommoder à la médiocrité. Il faut qu'on apprenne à être des personnes excellentes, travaillant selon les méthodes de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses sur le ciel, un temps pour travailler, un temps pour lire sa Bible, un temps pour prier. Et un temps pour venir à l'église, un temps pour être à la maison, pour s'occuper de son mari et faire ses repas. C'est normal, c'est biblique. Oh, il est en démon. Oh non, ça ne marche pas parce qu'il est en démon. Mes frères, je vais vous dire quelque chose ce soir. Et ça, ça m'engage en tant qu'homme de Dieu. Votre échec n'est pas conditionné par la présence d'un démon dans votre vie. Et je crois que c'est le manque de connaissance qui nous amène souvent à aller à l'échec. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Quels sont ceux qui pensent qu'il est nécessaire d'avoir accès à la vérité? Amen, c'est important. Avoir accès à la vérité, c'est important. J'ai vu des gens qui priaient, je me suis posé beaucoup de questions, qui prient peut-être 7, 8 heures de temps par jour. Mais quand vous regardez au fruit de leur ministère, à leur vie individuelle, ça fait peur parce que la vie ne reflète pas l'intensité de la communion. Pourquoi? Parce que nous avons conduit des gens à opérer avec Dieu par loi. C'est la loi. Je me lève le matin à 5 heures. Je suis professionnel de prière à 5 heures du matin. Donc je me lève même si j'ai profondément sommeil et que je n'arrive même pas à être lucide dans ce que je dis, il faut quand même que je prie à 5 heures du matin. Et donc, si je n'ai pas prié à 5 heures du matin, dès que j'arrive au bureau, j'ai l'impression que j'ai péché contre Dieu. La Bible n'a jamais établi des heures fixes pour prier. Est-ce que vous me comprenez? La Bible n'a jamais établi des heures fixes pour prier. Donc, si je n'ai pas prié à cette heure, ah, c'est grave, c'est un péché. Même dans ma façon de marcher, je marche d'une certaine façon. Je dois porter des choses qui traînent jusqu'au sol. Et gare à moi, si mon costume est bien, il faut que ce soit un peu froissé. Parce que c'est le signe de ma piété. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ça n'a rien à voir avec votre foi dans votre cœur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le mauvais endroit pour mettre votre confiance, ok, c'est dans la tête de votre voisin. Je vous dis quelque chose de très fort. Le mauvais endroit où vous devez aller chercher votre confiance, c'est dans la tête de votre voisin. N'ayez pas peur d'avoir les gens qui pensent mal de vous. N'ayez pas peur d'avoir ce genre de réaction. Jésus dit malheur à vous lorsque les gens ne diront que du bien de vous. Donc, écoutez, vous devrez apprendre à être vous-même dans votre relation avec Dieu. Dis à ton voisin, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais j'ai l'impression que c'est de toi qu'il parle. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec tout ce dont l'homme pouvait avoir besoin. L'homme, est-ce que le premier homme était malade? Non, l'homme ne connaissait pas la maladie, parce que la maladie est venue après la chute, n'est-ce pas? Est-ce que le premier homme avait une relation avec Dieu? Ah, je vous répondez. Le premier homme à écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que le premier homme était pauvre? Est-ce qu'il était pauvre? Est-ce qu'il était locataire? Hein? Il était propriétaire de toute la terre. Et vous voyez, vous savez, nous devons aller plus loin que ça. Souvent, on voit des gens, parce que peut-être tu as acheté une petite phare 8, alors en ville, personne ne peut plus te saluer, tu deviens le archibishop. Même pour te dire bonjour, c'est incroyable. Mais écoutez-moi bien, le premier homme possédait toute la terre. Donc si tu as 2000 mètres carrés de terrain, écoute mon frère, ce n'est pas la peine de penser que tu es au-dessus de... Tu n'as encore rien. Le premier homme avait toute la terre pour lui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le diamant était à lui, l'or était à lui. Les choses pour lesquelles aujourd'hui les gens se battent, les nations se livrent en guerre, le pétrole était sous ses pieds. Et il était là dans sa relation avec Dieu sans aucun problème. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, c'est simplement après la chute de l'homme que l'homme a perdu les attributs et les avantages qu'il avait dans sa relation avec Dieu. Parce que Dieu lui a dit, le jour où tu pécheras, tu mourras. Tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais maintenant, est-ce que quand l'homme a mangé le fruit, il est mort? Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il était physiquement vivant et spirituellement mort. Parce que Dieu parlait d'une mort spirituelle. Mais, même dans la mort spirituelle, Dieu va dire quelque chose. Et j'aime ça. Il dit, n'est-ce pas, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Et il dit, le sol te produira ta semence avec des épines et des ronces. En quelque sorte, il lui dit, malgré le fait que tu as été sous ma malédiction, néanmoins, quand tu sèmeras, tu récolteras, ce ne sera plus aussi abondant que ça, mais tu récolteras quand même avec des épines et des ronces. Et donc, quand on dit à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir d'argent. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas prospérer. Qui devient directeur de société, qui devient ministre, qui devient multimilliardaire, votre évangile semble être faux. Il faut dire la vérité aux gens. Vous comprenez, il faut leur dire que le plus important, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Et plus grave encore, j'ai vu sous le ciel des païens avoir accès à la bénédiction de Dieu et des chrétiens en être privés. Parce que la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Souvent, il y a une chose que Dieu regarde, c'est les principes qu'il a établis et non la figure que tu présentes au devant de l'église. Il regarde d'abord plus aux principes qu'il a établis. Ok, c'est pour ça que généralement dans la Bible, Dieu dit quiconque, à quiconque, quiconque croit, quiconque. Quiconque peut dire, même un païen croit, voilà ce que Dieu fera pour lui. Est-ce que ça va? Donc nous devons apprendre à être sincères avec nous-mêmes. Donc nous disons que l'homme, après avoir chuté, a perdu tous ses avantages, tous ses privilèges avec Dieu. En majorité, ont été perdus. Et vous voyez, ce que vous devez réaliser ici, c'est ceci. Le diable va toujours essayer de vous tenir captif dans le naturel. Parce que quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Tu te manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Et c'était intéressant pour la femme de dire, je verrai comment je deviendrai comme Dieu. Je ne sais pas si la première femme a eu à voir le visage de Dieu ou à voir la forme de Dieu. Mais je ne crois pas. Mais qu'elle a eu l'opportunité d'entendre sa voix, je crois. Maintenant, le diable dit, tu seras comme Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Ève. C'est qu'elle imaginait qu'elle deviendrait. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, le diable va toujours vous proposer ce que vous avez pour vous ôter ce qui est à vous. Parce qu'en fait, Ève était déjà comme Dieu. Mais le fait d'avoir écouté Satan lui a enlevé le privilège qu'elle avait, c'est-à-dire celle d'être Dieu. Donc il lui a proposé en fait ce qu'elle était ou ce qu'elle avait pour lui ôter ce qu'elle était et ce qu'elle avait. Est-ce que ça va? Ça veut dire que si vous arrivez quelque part, je suis un féticheur, je suis un voyant, je suis un astrologue, parce que je crois que ce sont des sciences qui ne sont pas des sciences divines, bien que certaines d'entre elles peuvent avoir une certaine exactitude. On aura le temps de parler de ça dans le sein de l'Alliance. Donc vous devez comprendre que c'est tout ce qu'on vous dit à votre sujet, tout ce que le diable vous propose et vous montre qu'il fera pour vous, n'est en fait que ce que Dieu a déjà prévu pour vous. Parce que le diable ne peut rien faire sous le ciel, ok, dans votre vie, à votre égard, si Dieu à l'avance n'a pas déjà prévu de telles choses. Est-ce que ça va? Donc il faut faire attention au naturel, parce que celui qui veut marcher dans la foi ne marche pas dans le naturel, il marche dans le surnaturel. Car la foi, n'est-ce pas, est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, dites-moi, au temps d'Adam et Ève, ok, où était la parole de Dieu? Est-ce que la Bible était déjà écrite? Dites-moi, mais aujourd'hui, où est la parole? Quand on dit la parole de Dieu, c'est quoi? Qui peut me montrer la parole de Dieu? C'est quoi? C'est la Bible, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Ça, c'est excellent. La parole de Dieu, c'est la Bible. Maintenant, au temps d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, où était la parole de Dieu? Est-ce qu'elle existait? Est-ce que la parole de Dieu existait? Quels sont ceux qui disent que ça existait? Quels sont ceux qui disent que la parole de Dieu n'existait pas? Ok, d'accord. Ça veut dire que la parole de Dieu existait. Mais sous quelle forme alors elle existait? Elle était audible. Donc Dieu se faisait entendre de façon audible. Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Donc si Dieu n'a pas changé, est-ce que Dieu se fait encore entendre aujourd'hui de façon audible? Non, répondez-moi. Quels sont ceux qui disent oui? Quels sont ceux qui disent non? Dieu se fait encore entendre de façon audible, n'est-ce pas? Maintenant, suivez-moi attentivement. Si la foi est une confiance que nous avons en Dieu, ça veut simplement dire que la foi est aussi une confiance que nous avons en la parole de Dieu. Car au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu au commencement. La parole était avec Dieu, la parole n'était pas dans la Bible. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, cette parole s'est faite chair et est venue au milieu de nous en la personne de Jésus. Ok? Mais suivez-moi attentivement. Donc, et quand Dieu demandait à Adam et Ève d'avoir la foi en lui, Dieu lui demandait de faire confiance en la parole qu'il les a donnée. Cette parole n'était pas la Bible, mais c'était la parole Réma que Dieu a donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez-moi attentivement. Si Dieu m'a fait un Réma à moi, est-ce que ce Réma est valable pour toi? Hein? Est-ce que ce Réma est valable pour toi? Maintenant, la Bible, ici, nous résume la vie des hommes de Dieu qui ont marché par la foi, ont eu une expérience fabuleuse avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient l'habileté d'écouter la voix de parfait. Donc celui qui lit la Bible n'est pas forcément celui qui écoute la voix de Dieu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Celui qui lit la Bible n'est pas forcément celui qui écoute la voix de Dieu ou la parole de Dieu. C'est profond ce que je suis en train de dire, parce que la parole de la Bible est le logos. C'est écrit, c'est le logos. C'est la parole écrite, imprimée. Ok? Maintenant, il y a une autre parole qui, elle, est le rhéma. C'est la parole révélée. La parole que Dieu t'a dite à toi-même. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour, lisant la Bible, d'avoir l'impression qu'un verset biblique s'allume et vous parle? Quels sont ceux qui ont déjà eu cette expérience-là? Ok, fabuleux. Vous avez déjà eu l'impression que, non, même pas une impression, vous avez vécu en face de vous un verset biblique qui s'allume et Dieu vous parle. Quand vous quittez ce moment, vous savez que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous savez que Dieu vous a parlé, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez-moi bien, la foi que vous avez devra prendre sa racine de cette parole que Dieu vous a donnée. Alléluia. Amen. J'ai rencontré des hommes de 45 ans qui m'ont dit un jour, j'avais 15 ans, et puis je méditais la parole, Dieu m'a dit, tu seras multimillionnaire. Mais j'ai 45 ans, je n'ai pas vu la chose s'accomplir. J'ai dit, où tu as placé la parole que Dieu t'a dite? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, donc la foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous parle. Dieu parle encore aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la Bible. C'est ce que la Bible dit, non? Non, de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole que Dieu te dit individuellement. Donc, si nous voulons ensemble opérer par la foi, il est indispensable pour chacun d'entre nous de rechercher la voix de Dieu. Que Dieu puisse nous parler individuellement. Ok? Que Dieu puisse nous parler individuellement. Que Dieu puisse nous parler individuellement. Et vous savez, j'ai appris une chose de Dieu. Dieu n'est pas trop bavard. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, Dieu m'a dit, après demain, Dieu m'a dit, après surlendemain, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne va pas s'intéresser à vous dire les choses tous les jours si la première chose qu'il vous a dit, vous ne faites rien avec, il se tait. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas bavard. Il te donne une instruction, il parle de quelque chose et il attend combien tu placeras ta confiance dans ce qu'il a dit pour te donner la seconde chose. Mes brebis entendent ma voix et me suivent et ne suivront point la voix d'un étranger. Et la voix étrangère, c'était dans le jardin d'Éden, la voix du serpent. Mais encore aujourd'hui, nous avons beaucoup de serpents qui nous parlent. Et il y a trop de serpents qui nous parlent. À la télé, les serpents nous parlent. Dans les journaux, les serpents nous parlent. Et dans la rue, les serpents nous parlent. Même souvent, dans notre propre lit, le serpent nous parle. Dieu nous parle partout. Non, et le serpent aussi peut nous parler partout. Il faut faire très attention. Vous n'êtes pas ce que les circonstances présentent. Mais vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et si nous croyons que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on imagine, au-delà de ce qu'on pense, alors nous devons décider de marcher par la foi. Est-ce que ça va? Nous devons décider de marcher par la foi. C'est vrai. C'est vrai qu'à certains moments, ça paraît vraiment... ce n'est pas commun. Vous savez, c'est ridicule même à certains moments. Vous imaginez Dieu qui dit à Pierre, professionnel de la pêche, va, pêche un poisson, tu ouvres sa bouche, tu trouves un stataire. Tu prends le stataire et puis donc on payera nos impôts avec ça. Imaginez, c'est dit à qui? À Pierre. Pierre était professionnel de la pêche. Jésus aurait mieux fait de dire ça, par exemple, à une autre personne parmi les disciples. À Nathanaël, par exemple. Ou alors de le dire, par exemple, à Jean. Mais à Pierre, apparemment, ce n'était pas la personne bien indiquée. Pierre était spécialiste du business du poisson. Il sait que pour se faire l'argent avec le poisson, il faut pêcher. Et ensuite, il faut vendre et obtenir l'argent. Mais Jésus lui dit, non, maintenant ça s'inverse. Tu pêches, tu ouvres la bouche, tu trouves l'argent dedans. Il faut beaucoup de foi pour obéir à cette parole-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, il faut beaucoup de foi pour obéir à cette parole. Et je vais vous dire une chose que je crois. Si vous n'êtes pas prêt à faire le ridicule avec Dieu, vous ne serez jamais prêt à voir le miracle de Dieu. Il faut souvent accepter des choses, de faire des choses qui paraissent ridicules pour voir la manifestation miraculeuse de Dieu. Parce que Dieu va toujours violer les lois naturelles. Il va agir de façon surnaturelle afin que ton entendement ne puisse pas comprendre sa voix. Et que tu puisses, par la foi, avoir accès à ses promesses. La foi en Dieu. Alléluia. Maintenant, j'ai parlé de la foi. Qui veut avoir la foi? Qui veut avoir la foi? Mais dites-moi, est-ce que vous croyez qu'une précieuse chose pareille, tout le monde peut l'avoir? qui peut avoir la foi. Je ne dis plus qui veut, mais qui peut l'avoir. Ah, alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent à la parole, beaucoup de personnes qui rentrent sans la foi, mais très peu qui saisissent la foi. Qui ce soir peut avoir la foi parmi vous? Alors maintenant, suivez attentivement. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » N'est-ce pas? Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ça veut dire que quel que soit les rites, quel que soit ton décret de prière, quelle que soit ta consécration, quel que soit tout ce que tu fais, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu récompense, rémunère ceux qui le suivent. Est-ce que vous savez qu'il y a une rémunération qui s'attache au fait d'être venu ici ce soir? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu récompense ceux qui le suivent. Dieu rémunère, Dieu récompense ceux qui le suivent. Nous devons convenir ensemble que Dieu ne peut pas nous demander d'avoir quelque chose si nous ne pouvons pas l'avoir. Est-ce que ça va? Dieu ne peut pas te demander, ma sœur, d'avoir la foi si tu ne peux pas l'avoir. Est-ce que ça va? Donc, Dieu sait que nous pouvons avoir la foi. Et la Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 3, que Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. Chacun de nous, nous avons une mesure de foi. Chacun de nous avons une mesure de foi. Et dans Éphésiens 2, verset 8, la Bible dit que nous sommes sauvés par la... Nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Ça veut dire que nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Maintenant, je vais dire quelque chose de très important. Vous pouvez être à l'église, ne pas avoir, n'est-ce pas, le salut pendant 10 ans. Mais un jour, un message vous est annoncé. Elle produit la foi dans votre cœur. Ce jour-là, vous prenez l'engagement. Au fond de votre cœur, vous vous dites, je vais accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce jour, il y a une foi en vous qui vous pousse à aller vers Dieu. Et alors, ce jour-là, Dieu considère que vous êtes sauvé, parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En quelque sorte, si vous n'avez pas cru dans votre cœur, mais vous avez confessé de votre bouche, vous n'êtes pas sauvé. Est-ce que ça va? Ça veut dire que même si vous avez confessé de votre bouche, mais vous n'avez pas cru de votre cœur, vous n'êtes pas sauvé. J'ai vu beaucoup de personnes qui disent « je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Croire est un verbe d'action. Croire vient de grec, c'est un verbe d'action. C'est un verbe qui nous amène à poser un acte conséquent à ce que nous croyons. Donc si tu dis « je crois en Dieu », par la suite, les actes que tu poses devraient être conséquents à sa déclaration que ta bouche émet. Pourquoi? Parce que quand on parle par la foi, on puise dans notre cœur la foi que nous avons et on le relâche de notre bouche. J'ai entendu les gens dire, le miracle de Dieu est dans ta bouche. Et tout le temps faisait d'éveiller, le miracle est dans ta bouche. Proclame ma sœur, déclare, dis ceci, prophétise. Et puis les gens disent, je déclare, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non là-bas. Je suis un champion, je suis un héros. Je vole comme des lèvres, j'ai la prospérité. On a déclaré, mais j'ai observé autour de moi, plus les gens déclaraient, plus ils décroissaient. Est-ce que vous me comprenez? Hein, ils déclarent des choses et puis plus ils déclarent, plus... Il décroisse. Donc tu te dis, mais il y a un problème quelque part. Et puis Dieu m'a dit, fils, toutes les paroles que vous relâchez de vos lèvres, si elles ne viennent pas de la foi que je vois dans votre cœur, ces paroles n'ont aucun impact sur votre vie. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Croire de son cœur et confesser de sa bouche. Maintenant, il y a des choses que ton cœur croit et que ta tête ne comprend pas. C'est pas grave. Et là, je suis très profond maintenant. Il y a des choses que ton cœur peut croire, venant de Dieu, mais que ta tête ne comprend pas. Dites-moi, est-ce que vous croyez que Marie avait compris quand Dieu lui a dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec vous? Elle qui était vierge, vous pensez qu'elle a compris? Non. Elle n'avait pas compris, mais elle a cru la parole. Vous comprenez? Donc, il y a une différence entre croire et comprendre. Souvent, Dieu veut qu'on croie, même si nous ne le comprenons pas totalement, mais qu'on croit quand même à la parole qu'il nous donne. Marie, vous pensez qu'elle avait compris? Demandez à Moïse, quand devant la mer rouge, il s'est tourné vers Dieu pour prier, que Dieu lui a dit, écoute Moïse, continue à avancer. Moïse dit, mais Dieu, tu nous as... Ça, c'est le suicide. C'est un tsunami orchestré par nous-mêmes. On va se jeter dans les eaux, au lieu qu'ils viennent vers nous, nous-mêmes allons aller nous noyer. Dieu dit, fils, avance. Qu'est-ce que tu as dans la main en bâton? Il dit, avance. Quand il arrive devant la mer, et qu'il entend les 600 chars d'élite scellés par Pharaon venant vers eux, ils étaient dans un cul de sac. Dieu dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, un bâton. Il dit, étends ta main. Moïse lève sa main et étend la main, n'est-ce pas, vers la mer rouge. Il dit, parle, et ordonne que cette mer se fende en deux. Moïse dit, mais je te commande, fends-toi en deux, nous allons passer. Est-ce que Moïse comprenait ce qu'il faisait? Non du tout. Il ne comprenait rien, mais il a cru que ce Dieu lui a dit de dire. Ça veut simplement dire que la chose sera faite, même s'il n'a pas compris. Alléluia. Même s'il n'a pas compris. Et Moïse a tendu la verge vers la mer rouge. Et la mer s'est fendue à deux. La Bible décrit qu'ils ont traversé la mer comme étant à sec. C'est-à-dire, non simplement la mer s'est fendue, mais le sol était sec. Les chevaux ont traversé la mer rouge parce que c'était une action de foi. Et les Égyptiens qui ont vu la chose ont dit, nous allons les poursuivre sur la même voie. Mais c'était sans compter sur la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien, il y a des choses qui nous arrivent parce que nous voulons copier. Il faut faire attention. Si tu as fait quelque chose avec ton frère et que tu n'as pas compris, n'essaye pas de faire la même chose parce que Dieu ne t'a pas dit de faire la même chose. Les Égyptiens qui tentaient l'expérience furent engloutis dans la mer rouge. Dieu avait fait un miracle. Demandez à Daniel dans la fosse de lion s'il a compris comment un lion qui n'a pas mangé depuis 2 semaines cause avec lui dans l'arène. Mes frères, je ne suis pas sûr. Daniel n'avait pas compris. Mais il savait que Dieu était capable de le délivrer de la fosse de lion. Que dirais-je encore de Shadrach, Abednego dans la fournaise de feu? Comment est-ce que dans le feu on voit des gens qui causent comme s'ils ont et le climatiseur dans le feu? En plein feu, les gens attendent qu'ils brûlent, ils sont en train de causer, et puis on voit d'autres personnes dedans, ils causent carrément dans le feu. Ça, la Bible dit, même quand tu traverseras le feu, il ne te brûlera point. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. Tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront point. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. La foi en Dieu. Par la foi, vous pouvez changer votre environnement. Par la foi en Dieu, vous pouvez améliorer l'état de votre affaire. Par la foi en Dieu, vous pouvez avoir un meilleur mari, c'est-à-dire transformé par la puissance de la foi de votre cœur. Par la foi en Dieu, vous pouvez accomplir votre destinée sur terre. Est-ce que vous me comprenez? Par la foi en Dieu, vous pouvez avoir les meilleures notes à la fac. Par la foi en Dieu, vous pouvez être premier à l'école. Par la foi en Dieu. Vous savez, la plus grosse bêtise qu'on puisse commettre, c'est de parler de Dieu comme si Dieu était une histoire. Dieu, c'est une réalité. Dieu, c'est une vérité. Dieu existe. Il est vivant. Il est réel. Et la Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Des choses qui surpassent votre entendement. Jean-Baptiste, quand il a vu la manifestation de la foi de Jésus, il ne comprenait pas. Et il a posé la question. Il dit, allez demander, mais est-ce que c'est vraiment lui le Messie qui devait venir? Jésus lui dit, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, et le royaume de Dieu est annoncé. Dès que Jean-Baptiste a reçu la nouvelle, et qu'il voulait la confirmation dans sa tête, plus tard, la tête de Jean-Baptiste a été demandée sur un plateau. C'était la fin du ministère du prophète. Aussi longtemps, le jour où tu veux vraiment comprendre ça de ta tête, alors on te tranchera la tête, parce que ce n'est pas une affaire de la tête, c'est une affaire du cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, vous savez, il est aberrant. Je donne ça ici comme exemple. Vous savez, quels sont ceux qui croient que Dieu existe? Sérieusement, vous croyez que Dieu existe? Que Dieu existe? Quels sont ceux qui croient que Dieu est capable de faire aujourd'hui ce qu'il a fait avec Moïse? Quels sont ceux qui croient que Dieu est capable de faire des miracles avec eux? Amen. Vous savez, j'ai dit que chacun d'entre nous, nous avons reçu une mesure de foi. Maintenant, la foi, c'est comme un muscle. Vous voyez, si vous avez un muscle et que tout le temps vous portez des haltères, vous faites ce qu'on appelle du bodybuilding, votre corps va commencer à gonfler. Est-ce que vous me comprenez? Donc votre corps gonfle. Quand on est chrétien, on a déjà la foi. Mais très peu de personnes acceptent d'exercer leur foi aux muscles par le poids des épreuves. Ce sont les épreuves que tu traverses qui donnent à ta foi de prendre du volume. Plus c'est difficile, mieux ta foi grandit. Et la Bible dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et avec la tentation, il te donnera toujours le moyen de soulever le poids et de t'en sortir. Parce que la force qui est en toi est capable de te conduire dans la victoire. Alléluia! Elle est capable de te conduire dans la victoire. Gloire à Dieu. Après cette leçon, j'aimerais que chacun d'entre vous, vous allez chez vous et que vous priez, vous dites, Satan, envoie-le tous les démons de l'enfer contre moi. Je sais que j'ai la victoire. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, nous ne devons pas être la catégorie de personnes qui ont peur de Satan. Et vous savez, généralement, ceux qui ont peur de Satan deviennent des chasseurs de démons. Vous voyez, c'est comme un jour, j'ai prié avec un précieux frère dans la foi. Vous savez, il y a des prières qu'on fait, on croit qu'on a la foi, mais c'est des prières de doute. On commence à prier, on entend un orage, on est en mission en Sierra Leone. Et donc, il y a des gens qui coupent les mains, qui coupent les pieds, nous on était là-bas. Donc, entre temps, on entend que les rebelles arrivent. Alors, Dieu le frère, là, on est là, on prie, Seigneur, déjoue la trajectoire des rebelles. Nous prions que la trajectoire des rebelles soit déjouée. Que la trajectoire soit déjouée. Et puis maintenant, tout de suite, une souris passe, paf, ça renverse son plateau. Il dit, je me rends. Tout à l'heure, tu pries, tu dis, Dieu déjoue la trajectoire. Par la foi, j'impose que les rebelles soient dans la confusion. Qu'ils prennent une autre route, qu'on soit sécurisé. Et tout de suite, un rat passe, bouleverse, juste un plateau qui tombe. Tu dis, je me rends. Là, tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire qu'au fond de toi, honnêtement, tu étais en train de prier, mais tu n'avais pas la foi dans ton cœur. Quels sont ceux qui ont déjà été dans une situation pareille? Tu pries, mais au fond de toi, tu sens que tu doutes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, ça arrive, vous savez. Même quand Pierre a été arrêté, l'église était en train de prier, on avait déjà lapidé Étienne. On persécutait l'église. Pierre a été arrêté. Les gens sont en réunion de prière, veillée de prière miraculeuse. Seigneur, délivre Pierre. Que les anges interviennent. Que Pierre soit délivré. Vous connaissez les charismatiques, quand ils prient, même les voitures changent de route. Hondo, Sakalaba, Hokabiki. Les gens prient, se couchent par terre, se lèvent. Et puis en certain moment, Dieu dit, ok, je vous ai exaucé. Et puis on libère Pierre. Un ange apparaît. Un ange libère Pierre. Et puis Pierre arrive au lieu de la prière. Les gens sont tellement affairés à prier qu'ils cognent. Ils disent, vous priez depuis longtemps, mais Dieu a exaucé, je suis à la porte. Et puis dès qu'ils entendent le bruit, ils disent, ah, il y a un fantôme dehors. Pierre dit, c'est moi. On dit, non, c'est un fantôme. Comment est-ce que tu as pu être relâché? Nous, on allait te tuer demain. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui devaient simplement ouvrir la porte de votre miracle. Vous n'avez plus besoin d'être là tout le temps à prier. Ouvrez juste la porte et faites entrer le miracle qui cogne à votre porte. Quand vous priez, vous devez croire que Dieu vous écoute. Et s'il vous écoute, il vous exauce. Quel que soit le temps que ça prend, Dieu vous exauce. Il y a des choses que notre tête ne comprend pas. Mais que notre cœur, lui, il appréhende et il croit en cette chose. Tout le monde a dit tout à l'heure, je crois que Dieu existe. Mais la Bible dit, et ça je vais lire un verset qui va, je suis sûr, nous bénir abondamment, abondamment, abondamment. Dans le livre d'Ésaïe 53. Dans le livre d'Ésaïe, on va lire un verset qui va nous bénir. Si vous êtes là, vous dites Amen. Ésaïe 53, verset 7. Celui qui est là et qui lise à haute voix. Ésaïe 53, verset 7. À haute voix. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Parfait. Maintenant, il était brisé pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Et par ses meurtrissures, nous avons été. C'est trois points. Numéro 1. Dites-moi, sérieusement. Qui croit que Jésus a pardonné ses péchés? Quels sont ceux qui croient que Jésus a pardonné leurs péchés? Jésus l'a fait. Il a vraiment fait. Il a pardonné nos péchés. Nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Il les a pardonnés. Maintenant, quels sont ceux qui croient que Jésus nous a donné la paix? Quels sont ceux qui sont en paix dans cette nation? Quels sont ceux qui croient que Dieu nous a donné la paix? Il nous a donné la paix, c'est véritable. Maintenant, quels sont ceux qui croient que Jésus nous a guéris par ses meurtrissures? Super. Qui a déjà vu son salut, mais qui croit qu'il est sauvé? Dans cette salle. Qui sait qui ira au ciel? Si ce soir l'enlèvement a lieu, qui montera avec moi vers les nuées? qui ira vers la rencontre du Seigneur ce soir. Alléluia. J'attends ce moment avec impatience. Mais je travaille comme si ce moment devait encore avoir lieu dans 500 ans plus tard. Parce que souvent, quand on pense que ça vient demain, on peut tomber sur le coup d'être trop paresseux aussi et ne rien faire d'autre. J'attends ce moment, mais je travaille quand même pour Dieu. Alors, maintenant, je crois que Dieu m'a pardonné mes péchés. Je le crois fermement. Nous sommes sauvés. Maintenant, qui parmi vous croit que Dieu l'a guéri de ses maladies et qui est malade physiquement maintenant? Voilà, maintenant je pose une question. Vous savez, je viens calmement. Nous croyons que les pas des maîtres ici, Jésus, nous avons été guéris. Pourquoi le même verset qui nous dit, vous avez pas ces maîtres ici, vous êtes guéris. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à croire à la guérison? Puisqu'on a dit, la foi est une confiance en Dieu qui est démontrée. Pourquoi est-ce que tu acceptes dans ta tête toi-même que cette maladie que tu parles est ta maladie à toi? Et souvent même quand tu parles, tu dis, ah, tu sais, mon mal de dos, oh, mon mal d'estomac, oh, ma sinusite, oh, mon mal de rein, oh, mon mal de cœur. Mais tu as déjà accepté ça comme ta maladie, alors que la Bible dit, par les meurtres de Christ, tu étais guéri. Pourquoi donc tu ne crois pas à la manifestation de la guérison dans ta vie individuelle? Vous savez, j'ai dit, croire, ce n'est pas le mental, c'est le cœur. Maintenant, un pasteur qui dit aux membres de son église, ne buvez plus de médicaments, vous êtes guéri par la foi. Gloire à Dieu pour sa foi. Mais sa foi n'est pas la tienne. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne bois pas de médicaments alors que tu n'as pas de foi, tu meurs. Ça c'est clair, tu meurs. Vous comprenez? Parce que Dieu ne cautionne que ce qu'il a initié. Alors, est-ce qu'il t'a dit dans ton cœur, à toi, par la relation que tu as, laisse tomber les médicaments, je te visite, je te guéris. Est-ce que tu as saisi cette parole par la foi dans ton cœur? Et que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais que tu es guéri. Vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement sophistiqué. Nous avons tout rapidement. Tu as mal à la tête, tu prends juste un Fansidar. Ok, tu as un paracétamol, si tu as un petit palu, tu prends. Ah, il y a tellement de médicaments aujourd'hui. Ok, que bon, dès que tu as un problème, tu le prends. Alors, le fait d'avoir des cachets immédiats, généralement, ne nous aide pas à mettre notre confiance totale. Parce que, dans le verset biblique, parce que ça prend souvent plus de temps que le cachet, que le médicament. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand on a un mal de tête, mais vous savez, c'est Dieu qui a donné aussi la sagesse aux hommes pour qu'ils fabriquent ces médicaments, pour que ce soit la béquille pour ceux qui chancellent dans leur foi. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de ce verset biblique. Alors, un homme de Dieu prêchait, gloire à Dieu, Dieu l'a ramené dans sa présence, il est plus vivant parmi nous. Oh non, j'avais été bouleversé par ce message. Et il dit, si tu crois en la parole, Dieu t'a guéri. Et moi, j'avais le palu dans le sang. Je suis né palu de rien. J'en ai né à l'hôpital. On m'a nourri avec les sondes. Donc, moi, j'avais accepté que je suis quelqu'un de fébrile, quelqu'un de maladif, avec le rhume tout le temps, la sinusite, le palu, à toutes les reprises. Et donc, j'ai dit, bon, écoute, si la Bible dit que j'ai été guéri et j'ai été sauvé par le même verset, je vais m'approprier de tout ce verset, une fois pour toutes. Je me suis levé, j'ai dit, Satan, écoute-moi très bien. Je suis un enfant de Dieu, je suis un croyant, donc je crois ce que Dieu me dit. Tu es un menteur. Je ne regarde pas en réalité, mais je regarde à la vérité. Mon corps me dit, je suis malade. Ma Bible me dit, je suis guéri. Je choisis de croire ce que la Bible dit et non ce que mon corps me véhicule comme message. Il dit, je ne prends pas de médicaments. Alors, Dieu dit, commencez le test. Vous savez, chaque fois que vous dites, je crois en quelque chose, vous comprenez, l'épreuve commence juste après ça. Parce que Dieu va tester votre foi. Donc, le même soir, couché dans mon lit, je commence à... Vraiment, le palu est monté à une dimension incroyable. Donc, mon père est venu me voir et me dit, mon fils, il faut que tu prennes des médicaments. Je dis, Dieu m'a dit, je suis guéri. Ah, il me regarde, Dieu chauffe, il me touche, il me dit, écoute, bon, ce qu'on va faire, tu faut que tu sortes de cette maison parce que je ne veux pas te voir mourir ici. Ah, mais là, c'était grave. J'avais des médicaments. Alors, quand il m'a donné les médicaments, j'ai dit, ok, il faut les envoyer. J'ai pris les médicaments, j'ai mis à côté de moi. Et c'était des Nivakines. On m'a dit, bon, tu prends 3 comprimés de Nivakine. J'ai dit, prends les Nivakine, je regarde. J'ai dit, par la foi, Nivakine, je te bois au nom de Jésus. Et puis, je mets sous le lit. Alors, j'ai commencé à chauffer la nuit. Le diable m'a dit, tu vas mourir. J'ai dit, non, la Bible dit, je suis guéri. Mais en certain moment, je me suis levé. J'ai dit, Satan, tu es un menteur. Je préfère mourir d'avoir cru en Dieu que de vivre dans le doute. Juste après, j'ai commencé à transpirer. Et le palu s'en est allé. Mais suivez attentivement. Comme j'avais dit, je bois la Nivakine par la foi. Les démangeaisons sont venues après. Dieu m'a dit, j'ai exaucé ta foi. Tu as bu les Nivakin par la foi, donc il faut que ça te démange un peu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, par la suite, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis simplement dit, ok, dorénavant, si j'ai un mal, je prendrai la parole de Dieu par la foi, et non un médicament par la foi. Comme ça, je n'aurai pas l'effet secondaire qui va agir dans ma vie. Est-ce que ça va? Parce que le médicament te donne aussi ce qu'on appelle un effet secondaire. Est-ce que ça va? Vous savez, c'est la parole de Dieu est vraie, elle est vérité. La parole est vérité. Un jour, j'étais en Sierra Leone, et donc j'étais en train de prêcher l'évangile, en plein marché. Au milieu du marché, on prêchait, il y a une femme qui est venue me voir. Elle me dit, homme de Dieu, mon enfant est malade, il est paralysé depuis 14 ans. J'étais hyper fatigué, il faut venir prier pour lui. Je vais avouer sincèrement que 14 ans de paralysie, je ne croyais pas que Dieu soit capable de faire le miracle. Donc j'ai trouvé le raccourci. Comme souvent ça peut nous arriver en tant que pasteur, que Dieu nous aide. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai trouvé le raccourci, j'ai dit à la femme, tu sais que la Bible dit que si tu crois, le pouvoir de Dieu est en toi. Et si tu imposes les mains aux malades, les malades seront guéris. J'ouvre la Bible, la femme regarde, c'était une femme musulmane, elle regarde. Elle dit, tu vois, c'est écrit. Elle dit, oui. J'ai dit, bon, tu as accepté Jésus maintenant. J'ai fait la prière de repentance. J'ai dit, je prie pour toi. La puissance de Dieu est dans ta main. Vas-y, pose les mains sur ton enfant et il sera guéri. Je vous dis sincèrement, moi-même, je n'avais pas l'audace que la femme a eue. Quand j'ai terminé de prier pour elle, elle dit, donc la puissance de Dieu est dans ma main. J'ai dit, c'est dans ta main. Elle a commencé à courir. Et quand elle a commencé à courir, elle dit, the power is in my hands. The power is in... Donc la puissance est dans mes mains. La puissance est dans mes mains. Elle est rentrée chez elle, courant en disant, la puissance est dans mes mains. Pourquoi? Parce qu'elle a lu dans la Bible ce que la Bible dit. Elle a saisi la promesse. Elle est allée chez elle, elle a secoué son enfant, elle a dit à son enfant, j'ai rencontré les hommes qui connaissent Jésus. J'ai accepté Jésus et j'ai la puissance pour te guérir. Tu vas marcher. L'enfant n'avait jamais marché depuis 14 ans. Elle impose les mains à l'enfant. Elle dit, lève-toi au nom de Jésus. L'enfant se lève 14 ans après et il commence à marcher. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et quand la femme est venue témoigner le même soir, ma première réaction était, Dieu, je me répands. Bien qu'ayant donné cette parole, je ne suis pas sûr qu'au fond de moi, je croyais que ça allait faire quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est capable de faire des choses inimaginables. Je vous donne un autre exemple, juste pour vous montrer qu'il peut nous arriver de douter aussi, hein, et que Dieu fasse quand même le miracle. Un jour, j'étais en train d'enseigner comme ça, parce que quand j'enseigne sur la foi, il y a toujours une excellente puissance de Dieu qui est disponible. Et le 23, je vais prier pour les malades. C'est-à-dire, je vais véritablement, pour des cas spécifiques, onction d'huile, il faut que Dieu fasse quelque chose. Il fera, je suis certain. Alors, il se trouve que, après l'enseignement, il y a un fou qui passait. Une jeune dame se lève, et puis elle dit, révérend, ok, comme tu as prêché sur la foi, voilà le fou, on va expérimenter sa manière, il faut qu'il soit guéri. Donc, vous savez, c'est une missionnaire. Donc, quand ils ont amené le fou, ils ont commencé à prier, authentique. Je suis allé m'asseoir au fond, j'ai dit ça là, c'est compliqué. Et en certain moment de la prière, la jeune dame se tourne et dit, mais, où est le révérend Wafo? C'est lui qui nous a enseigné la foi, mais il faut qu'il vienne. C'est lui qui doit prier pour lui. Il faut qu'il nous démontre ce qu'il a enseigné. Et puis tout le monde dit, ouais, c'est normal. Donc je me suis levé. De l'endroit où j'étais au fou, j'ai fait juste une prière. J'ai dit, Seigneur, quand je priais pour demander sur quoi j'allais enseigner, tu m'as dit, enseigne sur la puissance de la foi. J'ai obéi. Si aujourd'hui, là, rien ne se fait, je n'aurai pas honte. Mais c'est toi qui auras honte. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Veille sur ta parole. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Parce qu'en fait, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Souvent, je vois des gens qui veulent aider Dieu. Quand ils prient pour les malades, il faut qu'ils poussent le malade pour que le malade tombe. Non, ce n'est pas ma parole. Si c'est ma parole, je vais soutenir pour qu'elle s'accomplisse. C'est Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Pas moi, c'est Dieu. Donc, le fou était là et j'entends une voix qui me dit, prends autorité au nom de Jésus. Je sais quand Dieu me parle, j'arrive devant le fou. Tout de suite quand Dieu m'a parlé, j'ai été revêtu, je sentais que quelque chose est descendu en moi. J'arrive comme un militaire, j'ai dit, au nom puissant de Jésus, esprit de folie, libère cet homme. J'entends une autre fois qui me dit, commande à cet homme de recevoir Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. J'ai dit, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne, reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. J'ai fait la prière de repentance et puis le fou répète exactement ce que je dis. Entre-temps, il y a un missionnaire américain qui vient avec un appareil pour filmer. Le fou dit non, ne me filmez pas maintenant. Attendez que je me lave. Attendez que je me coiffe. Attendez que je m'habille. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai vu pour la première fois un fou qui a retrouvé ses sens. Par la puissance de Dieu, tu es capable de faire au-dessus de ce qu'on imagine, au-dessus de ce qu'on pense. Mais tout dépend de la foi que nous avons dans notre cœur.
Vous avez été béni par le ministère du révérend Raoul Wafo et vous tenez à acquérir d'autres messages soutenus par vos dons Wafo Ministries. N'hésitez pas. Contactez-nous au 225 22 52 24 02 ou au 225 07 85.